Monsieur Péricourt attendait l'appel du ministre. Il était presque 11 heures lorsque le téléphone sonna. « Ah, cher ami, désolé !» Mais la voix du ministre n'était pas celle d'un homme désolé. Il redoutait cet appel depuis plusieurs jours, étonné qu'il n'ait pas déjà eu lieu. Tôt ou tard, M. Péricourt interviendrait en faveur de son gendre, forcément. Et ce serait terriblement gênant. Le ministre lui devait beaucoup, mais cette fois, il ne pourrait rien. L'affaire des cimetières lui avait échappé. Le président du conseil lui-même s'en était ému. Que voulez-vous faire maintenant ? C'est au sujet de mon gendre, commença M. Péricourt. Ah, mon ami, comme c'est regrettable. Grave ? Oh, gravissime, c'est l'inculpation. Ah oui, à ce point. Eh oui, trucage sur des marchés de l'État, couverture de malfaçons, vol, trafic, tentative de corruption, rien de plus grave. Bon. Comment cela, bon ? Le ministre ne comprenait pas. Ben, je voulais connaître l'ampleur de la catastrophe. Oh, majeur, mon cher Péricourt. Un scandale assuré. Sans compter qu'en ce moment, ça descende partout. Avec cette histoire de monument aux morts, vous avouerez que nous traversons une sale période. Si, vous comprenez, j'ai pensé à intervenir pour votre gendre, mais non, 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 faites rien. Le ministre n'en croyait pas ses oreilles. Rien ? Non, je voulais être informé, voilà tout, reprit M. Péricourt. J'ai des dispositions à prendre pour ma fille, mais concernant M. Daulnay-Pradel, que la justice fasse son travail, c'est le mieux. Et il ajouta ces mots lourds de sens, « Mieux pour tout le monde ». Pour le ministre, s'en sortir à si peu de frais relevait du miracle. M. Péricourt raccrocha. La condamnation de son gendre qu'il venait de prononcer sans l'ombre d'une hésitation ne lui arracha qu'une pensée, « Dois-je prévenir Madeleine maintenant ?» Il consulta sa montre, « Il ferait ça plus tard ». Il commanda la voiture. « Sans chauffeur, je conduirai moi-même. » À 11h30, Pauline baignait encore dans l'euphorie de la revue, de la musique, des explosions, de tous ces bruits de moteur. Il venait de rentrer à la pension. « Tout de même, dit-elle en retirant son chapeau, demander un franc pour une malheureuse caisse en bois. » Albert restait figé, en plein milieu de la pièce. « Eh ben, mon chou, t'es malade, te v'là tout blanc. »« C'est moi, » dit-il. Puis, il s'assit sur le lit, tout raide, fixant Pauline. Ça y était, il avait avoué. Il ne savait pas ce qu'il fallait penser de cette décision soudaine, ni ce qu'il aurait à ajouter. Les mots étaient sortis de sa bouche sans qu'il intervienne, comme ceux de quelqu'un d'autre. Pauline le regarda, son chapeau encore à la main. « Comment ça, c'est toi ?» Albert semblait mal en point. Elle alla accrocher son manteau, revint vers lui, blanc comme neige. Oh ben, malade à tous les coups. Elle posa sa main sur son front. « Eh ben oui, il avait la fièvre. Ben, »« T'as pris froid ?» demanda-t-elle. « Je m'en vais, Pauline. Je pars. » Il usait d'un ton effaré. Le malentendu sur sa santé ne dura pas plus d'une seconde. « Tu pars ?» répéta-t-elle, au bord des larmes. « Comment ça tu pars ? Tu me laisses ?» Albert saisit le journal au pied du lit, plié encore à l'article concernant le scandale des monuments, et le lui tendit. « C'est moi, » répéta-t-il. Elle eut encore besoin de quelques secondes avant de comprendre. Elle se mordit alors le poing. « Mon Dieu !» Albert se leva, ouvrit le tiroir de la commode, saisit les billets de la compagnie maritime et lui tendit le sien. « Veux-tu venir avec moi ?» Pauline avait les yeux fixes, comme les billes de verre des mannequins de cire, la bouche entrouverte. Elle regarda les billets, puis le journal, mais sans sortir de sa stupéfaction. « Mon Dieu !» répétait-elle. Albert fit alors la seule chose possible. Il se leva, se pencha, tira sa valise de dessous le lit, la posa sur l'édredon et l'ouvrit sur une quantité folle de grosses coupures rangées en paquets serrés. Pauline poussa un cri. « Le train part pour Marseille dans 1 heure, » dit Albert. Elle disposait de 3 secondes pour choisir de devenir riche ou de rester bonne à tout faire. Elle n'en utilisa qu'une seule. Il y avait bien sûr la valise pleine d'argent, mais curieusement, ce qui emporta sa décision, ce furent les billets sur lesquels était marqué en bleu « cabine de première classe ». Tout ce que cela représentait. D'un geste, elle claqua le couvercle de la valise et courut enfiler son manteau. Pour M. Péricourt, l'aventure de son monument était terminée. Il ne savait pas pourquoi il se rendait au Lutetia, il n'avait pas l'intention d'y entrer ni de rencontrer cet homme ou de parler avec lui, pas davantage celle de le dénoncer, de s'opposer à sa fuite, non. Pour la première fois de sa vie, il acceptait sa défaite. Il était vaincu, indiscutablement. Étrangement, il en ressentait presque un soulagement. Perdre, c'est être humain. Et puis, c'était une fin, et il en fallait une. Il se rendait au Lutetia comme il aurait signé au bas d'une reconnaissance de dette, parce que c'est un courage nécessaire et parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ce n'était pas une haie d'honneur, on ne se comporte pas ainsi dans une grande maison, mais cela y ressemblait beaucoup. Tous ceux qui avaient servi M. Eugène l'attendaient au rez-de-chaussée. Il sortit de l'ascenseur en hurlant comme un fou, affublé de sa veste coloniale avec, dans le dos, ses ailes d'ange faites de plumeaux. Maintenant, on le voyait clairement. Il portait non pas une de ces excentricités dont il avait jusqu'alors régalé le personnel, mais son masque d'homme normal, figé, quoique si réaliste, celui avec lequel il était arrivé. À coup sûr, c'est une chose qu'on ne reverrait jamais. On aurait dû commander un photographe, regretta le concierge. Monsieur Eugène, grand seigneur comme jamais, distribuait des billets. On lui disait « Merci, monsieur Eugène. À bientôt. De gros billets pour tout le monde, comme un saint. » Sans doute était-ce à cause de cela, les ailes. Mais pourquoi vertes, se demandait-on. Déjà, des ailes. Quelle idée idiote, ressassait M. Péricourt en repensant à sa conversation avec son gendre. Il suivait un boulevard Saint-Germain peu encombré, juste quelques voitures, des fiacres. Il faisait un temps superbe. Son gendre avait parlé de fantaisie. Il avait évoqué ses ailes, bien sûr, mais aussi des orchestres, non? Le soulagement de M. Péricourt, il le comprenait enfin, tenait au fait d'avoir perdu une bataille qu'il ne pouvait pas gagner parce que ce monde, cet adversaire, n'était pas les siens. On ne peut pas gagner contre quelque chose qu'on ne comprend pas. Ce qu'on ne comprend pas, il faut simplement l'accepter, auraient pu philosopher les employés du Lutetia en empochant les bénédictions de M. Eugène qui, toujours hurlant, se dirigeait à grandes enjambées, les genoux bien hauts, un havresac au dos, vers les larges portes ouvertes sur le boulevard. Même ce déplacement, M. Péricourt aurait pu se l'éviter. Pourquoi s'était-il inventé cette corvée ridicule? Allons, décida-t-il, mieux vaut s'en retourner. Comme il roulait déjà sur le boulevard Raspail, il dépasserait le Lutetia, prendrait tout de suite à droite et rentrerait à qu'on en finisse. Cette décision lui fut un soulagement. Le concierge du Lutetia, lui aussi, avait hâte que cette comédie s'achève. Les autres clients trouvaient cela très mauvais genre, ce carnaval dans le hall. Et cette pluie d'argent transformait les personnels en mendiants. C'était indécent qu'ils partent enfin. Monsieur Eugène dut le sentir car il s'arrêta net, comme un gibier soudain averti de la présence d'un prédateur. Sa posture, désarticulée, démentait l'impassibilité de son masque, aux traits fixes comme paralysés. Soudain, il tendit le bras, droit devant lui, doubla le geste d'un hurlement net et franc, puis désigna l'angle du hall où une femme de service achevait d'épousseter les tables basses. Il se précipita vers elle. Elle fut saisie d'effroi en voyant cet homme au visage de marbre, en tenue coloniale et avec de grandes ailes vertes, se ruer sur elle. « Mon Dieu, ce que j'ai eu peur! Mais comme on a ri ensuite, c'est mon balai qu'il voulait !»« Le balai? Oui, mais comme je vous le dis !» Monsieur Eugène l'attrapa, en effet, cala le manche contre son épaule à la manière d'une longue carabine et marcha au pas, martial et claudiquant, criant toujours au rythme d'une musique silencieuse que tout le monde avait l'impression d'entendre. C'est ainsi, au pas militaire, ses grandes ailes battant l'air, qu'Édouard franchit les portes de l'hôtel Lutetia et surgit sur le trottoir, baigné de soleil. En tournant la tête à gauche, il vit une voiture roulant rapidement vers l'angle du boulevard. Alors, il lança en l'air son balai et se précipita. Monsieur Péricourt venait d'accélérer lorsqu'il remarqua le petit attroupement devant l'hôtel et il passait à la hauteur de l'entrée quand Édouard s'élança. La seule chose qu'il vit, ce ne fut pas, comme on pourrait l'imaginer, un ange s'envolant au-devant de lui, puisque, avec sa jambe traînante, Édouard ne parvint pas réellement à décoller du sol. Il se planta au milieu de la chaussée, ouvrit largement les bras à l'arrivée de la voiture, les yeux au ciel, tenta de s'élever dans les airs, mais ce fut tout, ou presque. Monsieur Péricourt n'aurait pas pu s'arrêter, mais il aurait pu freiner. Paralysé par cette surprenante apparition surgie de nulle part, non pas un ange en tenue coloniale, mais le visage d'Édouard, de son fils, intact, immobile, statufié comme un masque mortuaire dont les yeux plissés exprimaient une immense surprise, il ne réagit pas. La voiture percuta le jeune homme de plein fouet. Cela fit un bruit sourd, lugubre. Alors, l'ange s'envola réellement. Édouard fut catapulté en l'air. Bien que ce fût un vol assez disgracieux, comme celui d'un avion qui part en torche, pendant une seconde très brève, tout le monde vit clairement le corps du jeune homme cambré, le regard vers le ciel, les bras largement ouverts, comme pour une élévation, puis il retomba, s'écrasa sur la chaussée, le crâne frappa violemment l'arête du trottoir, et ce fut tout. Albert et Pauline montèrent dans le train juste avant midi. Ils étaient les premiers voyageurs à s'installer. Elle le submergea de questions auxquelles il répondit simplement. À écouter Albert, la réalité s'avérait désarmante. Pauline jetait de temps à autre de rapides coups d'œil sur la valise qu'elle avait placée en face d'elle sur le porte-bagages. Albert, lui, serrait jalousement sur ses genoux le grand carton à chapeau contenant sa tête de cheval. « Mais qui est-ce donc, ton camarade ? » chuchota-t-elle avec impatience. « Un camarade !» répondit-il évasivement. Il ne disposait pas de l'énergie nécessaire pour le décrire. Elle verrait bien. Il ne voulait pas qu'elle prenne peur, qu'elle s'enfuit, qu'elle l'abandonne maintenant, parce que toutes ses forces avaient fondu. Il était éreinté. Après son aveu, le taxi, la gare, les billets, les porteurs, les contrôleurs, Pauline s'était chargée de tout. S'il avait pu, Albert se serait endormi là, tout de suite. Et le temps passait. D'autres voyageurs montèrent à leur tour. Le train se remplit. Valse des valises et des malles qu'on hissait par les fenêtres, les cris des enfants, la fièvre du départ, les amis, les époux, les parents sur le quai, les recommandations, on cherchait sa place. « Tiens, c'est ici, vous permettez ?» Albert s'était installé à la fenêtre entièrement baissée, la tête penchée vers le quai, tournée vers l'arrière du train, il ressemblait à un chien qui guette la venue de son maître. On le bousculait pour passer dans le couloir, de biais parce qu'il gênait. Le compartiment fit le plein, ne restait plus qu'un siège inoccupé, celui du camarade qui n'arrivait pas. Bien avant l'heure du départ, Albert comprit qu'Édouard ne viendrait pas. Il fut accablé d'une peine immense. Pauline, qui comprenait, s'était blottie contre lui et serrait ses mains dans les siennes. Lorsque les contrôleurs commencèrent à longer le quai en criant que le convoi allait démarrer, qu'il fallait s'éloigner du train, Albert, la tête basse, se mit à pleurer, impossible de s'arrêter. Il avait le cœur brisé. Madame Maillard raconterait plus tard « Albert a voulu partir aux colonies. Bon, moi je veux bien. Mais s'il fait comme ici et qu'il se met à pleurnicher devant les indigènes, il va pas arriver à grand-chose, hein, c'est moi qui vous le dis. Mais bon, c'est Albert, bah, qu'est-ce que vous voulez, il est comme ça. »